La voix du peuple et ses exigences sont-elles réellement entendues au Niger, ce peuple qui s'est opposé de manière exemplaire face au convoi français il y a quelques mois, une résistance qui lui a coûté la mort de 3 personnes. En décembre dernier, le président nigérien Mohamed Bazoum a demandé à la France d'ouvrir une enquête sur ces heures. Tous les regards ont alors été tournés vers le président nigérien et le résultat des enquêtes. Mais ceci n'est qu'une partie des réelles exigences du peuple nigérien. Le peuple nigérien, tout comme celui du voisin malien, exige un retrait définitif des sponsors des terroristes et des rebelles de tout genre qui se trouvent à Paris, à Washington, à Berlin. De son côté, l'opposition politique nigérienne a rejeté jeudi la décision des autorités nigériennes et françaises d'indemniser les familles des victimes de la répression de la manifestation organisée en novembre 2021 par des jeunes de la ville de Téra, dans l'ouest du Niger, pour s'opposer au passage d'un convoi de l'armée française. Ainsi, pour le gouvernement, les meurtres de nos compatriotes semblent avoir trouvé une issue acceptée par les parties directement impliquées au travers d'une réparation en compensation des préjudices subis par les familles des victimes, a déploré l'opposition dans un communiqué publié jeudi par son secrétaire permanent, Maman Senimalam Maman. Pour l'opposition politique, le règlement de cette question ne saurait être réduit à sa seule dimension civile, a ajouté la même source. Mais ce n'est encore une fois pas tout ce que le peuple exige. Au Sahel, où les coalitions interafricaines se renforcent de jour en jour, la donne est sur le point de s'inverser. Ce peuple n'admet en aucun cas le redéploiement de Barkhane, expulsé et déboussolé au Sahel dans son pays. Un redéploiement qui a été approuvé sans la moindre discussion et consultation avec le peuple. Ces manœuvres de diversion, c'est-à-dire ces communiqués publiés, de part et d'autre de l'opposition, ne distrairont pas le peuple de sa réelle exigence, qui est le retrait définitif de toute armée interventionniste. La présence militaire française au Sahel, déployée dans le cadre de l'opération Barkhane, de pseudo-lutte contre les groupes terroristes, est de plus en plus critiquée dans ses anciennes colonies comme au Mali, au Niger et au Burkina, et dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La présence française est en train de marquer sa sortie définitive du continent africain. La fin de la France-Afrique est très proche, mais les États-Unis tentent de reprendre la place et il est clair que leur politique n'est vraiment pas différente de celle de la France. La souveraineté du continent africain doit arrêter d'être constamment bafouée. Les Africains ne comptent plus se laisser faire et montrent qu'ils sont prêts à défendre leur pays et leur continent face au néocolonialisme. L'Afrique a toujours servi de laboratoire d'expérimentation humaine pour les Occidentaux qui, sous prétexte de lutter contre la propagation des virus, ne se sont jamais empêchés d'expérimenter leurs vaccins sur la population africaine. Pour eux, le taux de la natalité étant beaucoup trop élevé, si quelques centaines de personnes servaient d'essais cliniques sans pour autant assurer leur santé, il ne se passerait rien. La dernière preuve des expérimentations inhumaines occidentales sur le peuple africain s'agit du virus de la variole du singe monkeypox. Le commandant des forces de protection, radiologue, chimique et biologique des forces armées russes, Igor Kirillov, a annoncé ce vendredi 27 mai que le virus de la variole du singe provenait du Nigeria, où opèrent au moins 4 laboratoires biologiques américains. M. Kirillov a déclaré lors d'un point de presse: selon le rapport de l'OMS, l'épidémie de la souche ouest-africaine de monkeypox a commencé à partir du Nigeria, un autre pays dans lequel les États-Unis ont déployé leur infrastructure biologique. Selon les informations disponibles, il y a au moins 4 laboratoires biologiques contrôlés par Washington au Nigeria. Il a souligné que c'est une étrange coïncidence qui nécessite une vérification par des spécialistes. À noter que le ministère russe de la Défense a annoncé qu'il disposait d'informations sur 10 projets américains en cours en Ukraine pour répandre des maladies, assurant qu'il y a un lien entre certains laboratoires biologiques ukrainiens et le Pentagone pour le contrôle mondial de la propagation des maladies infectieuses. Il comprend des laboratoires pour les forces terrestres et navales, en plus des bases militaires dispersées dans plusieurs régions du monde, a poursuivi M. Kirillov, selon lequel les rapports envoyés par l'Ukraine aux Nations Unies qu'il n'y a pas de programme biomilitaire dans le pays contredisent les récentes déclarations du représentant américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le jeudi 26 mai, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé les États-Unis d'avoir établi des laboratoires biologiques militaires dans le monde entier par l'intermédiaire d'une section du Pentagone. Lavrov a souligné que le Pentagone accorde une attention particulière au développement du réseau de laboratoires biologiques militaires pour l'espace post-soviétique et l'Eurasie dans son ensemble. En effet, en accumulant les échecs sur le plan militaire partout en Afrique, il est clair que la France et les États-Unis cherchent à tout prix à trouver une nouvelle solution afin de renforcer la sphère d'influence occidentale qui planait sur ce continent. On rappelle qu'en pleine période de la propagation du virus COVID-19, le chef des services de réanimation de l'hôpital Cochin de Paris avait plaidé, sans honte, pour des expérimentations sur les Africains atteints de COVID-19, puisqu'il s'agit d'une population sans masque, sans gants et privée d'appareils de respiratoire. En effet, après le fameux vol d'Air France au Cameroun, les tentatives d'introduction du virus en RDC, au Mali, au Burkina et au Niger, les peuples africains se sont de plus en plus cibles d'assauts biologiques d'une puissance colonialiste dont les médecins défendent éhontément à l'antenne publique leurs crimes commis en Afrique dans le cadre d'expérimentations médicales. En Centrafrique, après l'annonce par un député de la majorité présidentielle jeudi 26 mai d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale portant de modifications de plusieurs articles de la Constitution, dont celui qui instaure un verrou de deux mandats pour le chef de l'État, l'opposition dite « démocratique » qui regroupe les principaux opposants centrafricains est montée au créneau. Qui veut déstabiliser le pays? À qui nuira une réélection du président Ouattara?
Le lobby, en fait, France-Afrique, qui s'oppose à une réélection de Ouattara. C'est un homme jeune qui n'a pas fini son action et au contraire qui est en train de redresser le pays. Un non-renouvellement du troisième mandat de Ouattara signifierait le retour de la Centrafrique à l'anarchie. Et la soi-disant opposition dite démocratique, ce sont les gens qui précédemment ont soutenu en coulisses les tentatives de soulèvement, de putsch, etc., de rébellion armée, et qui voudraient voir le pays ressombrer dans l'anarchie. Mais ce qui se pose, c'est la question en Afrique du troisième mandat. La thématique du troisième mandat est une thématique purement américaine et occidentale. Elle est introduite en Afrique à la fin de la guerre froide en 1991, par le fameux discours de la Baule de Mitterrand qui venait porter les valises de Bush père du nouvel ordre mondial. Elle a plongé les pays d'Afrique dans la guerre civile et le malheur, en particulier le Congo-Brazzaville et le Zaïre d'ailleurs qui ne s'en est jamais remis, puisque ça a été 25 ans d'instabilité, d'anarchie, de guerre civile, d'agression étrangère et de rébellion permanente. Actuellement, évidemment, la thématique du double mandat, elle est contestée partout ailleurs en dehors du monde occidental, notamment par les Chinois et notamment par les Russes avec leur démocratie russe souveraine. Voilà pourquoi, donc, évidemment, les gens qui s'opposent à une modification de la Constitution et à un troisième mandat de Ouattara, ce sont les partisans de l'ordre occidental et ceux qui voudraient que l'Afrique continue, et en particulier la Centrafrique, continue à vivre dans l'anarchie, le sous-développement et le néocolonialisme. Ouattara, la question de la réélection de Ouattara ne se pose pas parce qu'il est extrêmement populaire. Mais il faudrait tout d'abord, c'est un préalable, c'est le vote de la modification de la Constitution. Une réélection de Ouattara étant évidemment moins problématique. La question se posera dans les 2 années à venir. Touadéra, donc, a été réélu en janvier de l'année passée et normalement, il est élu pour un mandat de 4 ans. Le mandat de Touadéra a eu lieu en 2015. À l'époque, évidemment, c'était un président sans pouvoir. C'était un candidat surprise puisqu'il a été élu grâce à l'aide du président de Guinée équatoriale, Omiyagnemad Bassongan, mais personne ne l'attendait. Et à l'époque, les Français prétendaient que c'était un candidat inconnu sans légitimité, alors qu'il avait été le meilleur premier ministre de la dernière période de Centrafrique. Mais à l'époque, il ne contrôlait pas le pays qui était dominé par les groupes armés et la MINUSCA. Il ne contrôlait même pas tous les quartiers de sa capitale, puisque des quartiers rebelles, les PK5 et PETA13, étaient en soulèvement permanent. Aujourd'hui, en 2000, janvier 2021, avec l'écrasement de la tentative de putsch de Bozizé par les FAKA, les paramilitaires russes et les soldats casque bleu rwandais, il a repris le contrôle de plus de 90% du pays. C'est le véritable président d'un pays dont il est en train de rétablir la souveraineté sécuritaire, géopolitique et économique. Et évidemment, c'est un défi permanent aux Occidentaux. Il y a encore 3 jours, il y a eu un bruno, c'est-à-dire une nouvelle campagne du State Department contre le soi-disant groupe Wagner qui n'existe pas, dans lequel on attaque violemment les paramilitaires russes et en particulier l'ensemble des pays, le Mali, les pays du Golfe de Guinée. La Centrafrique, la Guinée équatoriale, mais particulièrement la République centrafricaine. Et on comprend mieux évidemment l'hostilité occidentale, américaine et française à cette règle du troisième mandat.
L'initiative chinoise La Ceinture et la Route favorise le développement de l'Afrique. L'initiative La Ceinture et la Route proposée par la Chine constitue une plateforme ouverte de coopération et injecte un élan et une stabilité croissant dans le développement des pays africains, ont déclaré des experts lors du premier colloque international sur la Ceinture et la Route en Afrique francophone. Cette conférence de 3 jours a réuni dans la capitale camerounaise Yaoundé des centaines de participants, dont des hommes politiques, des universitaires, des représentants d'entreprises chinoises et des étudiants. Wang Dong, conseiller de l'ambassade de Chine au Cameroun, a indiqué lors du discours d'ouverture que l'initiative La Ceinture et la Route visait à renforcer la connectivité mondiale, à améliorer le niveau de coopération commerciale et d'investissement et à promouvoir la coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d'équipements. Le ministre tchadien de l'énergie et du pétrole, Djerassam Le Bemadjiel, a annoncé ce 27 mai que la nouvelle centrale électrique à gaz de Mondou est terminée et en essai. Pour la première fois de son histoire, la ville de Mondou a été couverte à 100% par l'électricité provenant de cette nouvelle centrale, pour le moment en test avec le gasoil, a affirmé le ministre sur les réseaux sociaux. Une fois les essais terminés, il est attendu le démarrage imminent des champs pétrolifères de Mangara et Badila pour rendre la production d'électricité pérenne. Ainsi, Mondou sera la première ville au Tchad à être alimentée par le gaz naturel provenant des champs pétroliers, à l'exemple d'Amjaras, qui en est la première à fonctionner avec l'énergie éolienne, a indiqué Djerassam Le Bemadjiel, le ministre tchadien de l'énergie. L'Angola et le Sénégal renforcent leur coopération dans le domaine des hydrocarbures. En visite officielle en Angola, le président sénégalais Macky Sall et son homologue angolais João Lourenço ont affiché leur ambition de donner un nouvel élan dans les relations entre les deux pays. Les deux chefs de l'État ont annoncé la signature de 3 accords, notamment dans les domaines des hydrocarbures, du commerce et du tourisme. Ce, à l'issue des discussions entre les chefs d'État autour de ces secteurs. La signature de ces accords de coopération a un accent particulier sur le partenariat pour l'exploration pétrolière. C'est dans cette perspective que le président angolais a soutenu qu'il va accompagner le Sénégal dans l'exploitation des hydrocarbures. Le Sénégal peut compter sur l'Angola dans le domaine de l'exploitation des hydrocarbures, a-t-il laissé entendre. Ce séjour officiel intervient dans le cadre du renforcement des relations amicales entre le Sénégal et l'Angola, dans la lignée de l'ouverture d'une ambassade angolaise à Dakar. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, a été reçu en audience par le président de la Guinée équatoriale, Son Excellence Monsieur Teodoro Obiang Bassogo, le 25 mai 2022 à Malabo. Le ministre malien des Affaires étrangères était porteur d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Gouata, à son homologue équato-guinéen. Les entretiens ont porté sur le renforcement des liens fraternels d'amitié, de coopération et de solidarité africaine existants entre les deux pays. Le ministre Diop a informé le président équato-guinéen de l'évolution de la situation sociopolitique et des efforts menés par les autorités maliennes. Le ministre Diop a informé le président équato-guinéen de l'évolution de la situation sociopolitique et des efforts menés par les autorités maliennes. Le président de la Guinée équatoriale a pour sa part réaffirmé son soutien sans réserve à son frère, le président Assimi Gouata.